vous saluez de la part de l'église de Vitrolles aussi. Vous remerciez pour l'accueil, vous êtes très accueillants. Vous avez vraiment une belle église qui est très accueillante, on s'y sent bien. Et lorsqu'on est arrivé, on a été accueillis, même le petit qui d'habitude est timide se retrouve à l'école du dimanche. Donc c'est vraiment, voilà, c'est, vous dégagez un amour. Et je ne suis pas seul à le dire, il y a des personnes qui sont venues avec moi qui ont pensé la même chose. Ils ont dit il y a un amour particulier dans cette église. Et je remercie le Seigneur pour cela, parce que nous devons être différents. Nous devons paraître différents aux yeux du monde. Et à ceci, hein, les gens vont reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, des disciples de Christ. Et voilà, continuez sur cette voie, parce que vraiment, lorsqu'on s'approche de vous, on voit qu'il y a quelque chose de particulier en vous. Dieu m'a mis sur le cœur un message. Donc c'est une prédication qui reprend les caractéristiques qu'un chrétien devrait avoir, mais des caractéristiques qui, cette fois, vont être reprises avec une plante qui s'appelle l'hysope. Peut-être que vous la connaissez. Elle n'est pas très connue, mais elle est citée à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et nous allons prendre, sans plus tarder, le verset de référence, donc le texte dans Exode chapitre 12, versets 22 à 23. Il est dit comme ceci. « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Amen. Le peuple d'Israël, dans cette histoire, vivait en Égypte. C'était un pays dans lequel il était esclave depuis déjà 430 ans. Et Moïse fut l'homme que Dieu a décidé d'envoyer pour libérer ce peuple. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'à cause de la dureté du cœur du roi Pharaon de l'époque, Dieu frappa le pays d'Égypte de 10 plaies. Et la dernière de ces 10 plaies était la mort de tous les premiers-nés du pays tout entier. Et la Bible nous dit « Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Pour que les premiers-nés de la maison d'Israël ne périssent pas, Dieu a demandé à chaque famille de prendre un agneau parfait, sans défaut, sans tache, sans aucune infirmité, de le garder 4 jours puis de le tuer. Et ensuite, avec un bouquet d'hysope, de répandre son sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte afin que la mort ne passe pas par cet endroit-là. Par la suite, l'agneau devait être mangé. L'hysope est une plante qui est apparue dans la Bible pour la première fois dans l'Exode. Mais depuis, l'hysope a été citée à plusieurs reprises. Nous venons de le voir donc en Égypte, mais c'est une plante qui est aussi utilisée dans beaucoup de gestes de purification. Si nous prenons les Lévitiques au chapitre 14 et au verset 4, il est dit « Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. » C'est une plante qui est utilisée pour la consécration des sacrificateurs aussi, pour la purification des lépreux et pour la purification des maisons atteintes de la lèpre. Lévitique, chapitre 14 et verset 51 dit « Il prendra du bois de cèdre, de l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé, dans l'eau vive, et il en fera cette fois l'aspersion sur la maison. » Moïse, lui, a employé l'hysope pour asperger le livre de la loi, le peuple, le tabernacle et tous les ustensiles. Prenons Hébreux, chapitre 9 et verset 19, et nous allons voir qu'il est dit « Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. » Et si nous allons au verset 21, toujours dans Hébreux 9, il est dit « Et il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. » Et enfin, l'hysope est cité une dernière fois au moment de la crucifixion de Jésus-Christ. Jean, chapitre 19, verset 29 dit « Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. » Je voudrais juste prendre un moment pour ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible pour préciser que L'hysope est une plante à bouquet, une plante qui va varier entre 20, elle va faire entre 20 et 50 cm de long, mais son poids n'est pas capable, en tout cas, elle n'a pas la force dans ses branches de supporter le poids d'une éponge imbibée de vinaigre. Et puis si nous lisons l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, eux, ils vont nous parler d'un roseau sur lequel était fixée l'éponge quand ils ont donné l'éponge de vinaigre à Jésus-Christ. Et comme la Bible ne peut pas se contredire, j'ai donc regardé dans la Bible interlinéaire. Je voulais voir plus clair. Et là, il est écrit « Ayant mis autour une branche d'hysope ». Ce qui démontre que l'éponge était fixée à un roseau entouré par une branche d'hysope. C'était juste pour clarifier, parce que parfois on entend, mais dans cet évangile, il est dit ça, et puis dans l'autre, il est dit autre chose. La Bible ne se contredit pas. Amen. Cette plante avait une place très importante, donc, à ce qu'on peut voir dans la loi hébraïque. Même le roi David lui-même, après avoir commis l'adultère et après avoir envoyé le Hittite à la mort, mais surtout après avoir reçu la visite du prophète Nathan qui venait lui rappeler le péché qu'il venait de commettre, il se mit à prier Dieu pour que Dieu purifie son péché avec de l'hysope. Nous pouvons le voir dans le psaume 51, il dit « Purifiez-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et si Dieu utilise régulièrement l'hysope à travers la Bible, c'est qu'elle n'est pas qu'une simple plante. Elle possède des particularités, elle possède des caractéristiques similaires à celles que nous autres chrétiens, disciples de Christ, nous devons posséder. Et ce matin, je voudrais que nous puissions voir quelques-uns de ces caractères, de ces caractéristiques à cette plante ensemble. Pour commencer, c'est une plante. L'hysope est une plante, et comme chaque plante, elle va naître d'une semence, puis elle va grandir, elle va pousser et elle va devenir forte. Elle va devenir suffisamment forte pour pouvoir résister à l'environnement qui l'entoure, que ce soit les pluies, les tempêtes ou la sécheresse passagère. Et la Bible dit que l'enfant de Dieu va naître d'une semence, et cette semence s'appelle la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 nous dit « Vous êtes régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. » Voici ce que nous dit la parole de Dieu. La science nous apprend que toute semence contient un germe dans lequel est cachée la vie de la plante. Une fois mise en terre, la graine manifeste sa vitalité par la pousse qui va sortir d'elle. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, il en va de même de la parole de Dieu. Elle a en elle-même une puissance de vie. Elle est semée dans les cœurs, et si nous la recevons de la bonne manière, si nous y croyons, si nous la comprenons, alors elle va produire en nous du fruit digne de la repentance et nous offrir une vie nouvelle donnée par Dieu. Et à travers la parabole du semeur, Jésus va nous enseigner que la semence de la parole de Dieu est semée dans les cœurs de tous les hommes, des femmes, dans tout le monde entier. Mais malheureusement, tous ne la reçoivent pas de la même manière. Il nous appartient, mes frères et sœurs, à chacun de nous, de la recevoir de la bonne façon, c'est-à-dire l'entendre, la comprendre, mais aussi la mettre en pratique dans notre vie. Nous devons aussi faire attention que cette semence, grandisse, fortifie nos cœurs, afin que les distractions du monde, que les épreuves qui vont nous environner chaque jour, toutes ces épreuves qui sont pesantes dans nos vies, ne suffisent pas à nous faire repartir vers le chemin large et facile. Et vous savez, repartir vers le chemin large et facile ne veut pas forcément dire ne plus venir à l'église. Plusieurs vont partir de l'église locale, c'est vrai, et nous le constatons, mais d'autres continueront à venir. Ils se donneront simplement bonne conscience d'être présents. Et la triste réalité pour ces personnes, sera que la semence a complètement séché ou a été étouffée par les préoccupations de ce monde, par l'attrait trompeur de ses richesses, par ses divertissements ou par la pensée de facilité que le monde dégage. Mais nous devons ne pas oublier que c'est de notre vie que nous parlons. Si Jésus est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, en changeant de chemin, nous changeons aussi la destination vers laquelle nous allons aller pour l'éternité. C'est aussi pour éviter cet état spirituel chez les chrétiens qui nous entourent que Jésus nous apprend à être le gardien de nos frères. Une fois semé, Il faut veiller que la semence de la parole de Dieu croisse correctement dans notre vie, c'est vrai, nous venons de le voir, mais aussi dans celle de nos frères et de nos sœurs qui nous entourent. Si je me préoccupe correctement de mon frère, et que mon frère à son tour se préoccupe correctement de son frère ou de sa sœur, alors il y aura forcément plusieurs personnes dans l'église qui veilleront sur moi et qui vont m'aider à avancer, m'aider à voir ce que je ne vois pas, m'aider à comprendre ce que je ne comprends pas et me tirer vers le haut lorsque je suis faible. Et lorsque je passerai par une épreuve, elle me semblera plus facile, plus légère, puisque d'autres personnes viendront porter cette épreuve avec moi, m'encourageront à avancer, me donneront les bonnes paroles, afin que je ne baisse pas les bras. Et ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas uniquement au pasteur que Dieu demande de veiller sur ses enfants. C'est à chacun d'entre nous. Et nous devons en prendre conscience. Le pasteur le fait bien sûr, mais je pense qu'avant de le faire, parce qu'il a le titre de pasteur, il le fait d'abord parce qu'il aime son frère, parce qu'il aime sa sœur, et qu'il veut absolument veiller sur son bien-être, veiller sur sa vie spirituelle. Et c'est le rôle que nous devons tous avoir. Dieu a fait de nous des frères et des sœurs, non pas liés par un lien corruptible, mais liés par la puissance, par l'amour et par la foi en Jésus-Christ. Et cela change tout. Voilà pourquoi il nous demande à tous de veiller les uns sur les autres, afin que personne ne s'égare du seul chemin qui mène à la vie. Dieu ne nous a pas donné l'Église simplement pour que nous venions écouter la parole de Dieu, pour que nous venions y prier. Ce n'est pas qu'un lieu où l'on se rassemble quelques jours par semaine ou le dimanche seulement pour certains. Mais Jésus dira, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimer son frère commence par s'occuper de lui lorsqu'il est dans le besoin. Et même si cela nous prive de faire quelque chose que nous aurions dû faire à la place, il nous faut comprendre une chose essentielle, c'est que le besoin spirituel de nos frères et de nos sœurs doivent nous préoccuper. Quelle personne qui aime son frère réellement de tout son cœur voudrait le voir mourir? Philippiens chapitre 2 verset 4 nous dit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Jésus n'a pas considéré ses propres intérêts, mais il a considéré les nôtres. Et c'est pour cela qu'il est venu donner sa vie en sacrifice. Et croyez-moi, il est Dieu. Les anges l'adoraient dans son ciel de gloire. Et il avait certainement mieux à faire que de venir ici-bas souffrir jusqu'à la mort de la croix pour nos fautes et pour nos maladies. Pourtant, il l'a fait parce qu'il nous aimait d'un amour véritable et sincère. Je l'entendais dans les prières ce matin. Alors soyons à son image, comme il nous demande de l'être. Et prenons le temps pour nos frères, même si cela doit nous coûter quelque chose. Cette semence que nous avons reçue dans notre cœur, c'est une semence qui gêne beaucoup de monde. Car à travers la parole, Dieu va mettre en lumière le péché. Il va mettre en lumière la condamnation que l'homme porte sur lui. C'est une semence qui met en lumière nos erreurs, nos mauvais choix, nos mauvaises pensées ou même nos mauvaises actions. Mais Dieu ne fait pas cela pour nous juger ni pour nous condamner. S'il veut que tout soit mis en lumière dans notre vie, c'est pour nous faire prendre conscience de notre état et du fait que seul Jésus-Christ, seul son sacrifice, puisse nous permettre d'être rachetés et de changer de direction. Que seul lui puisse nous permettre de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Jean chapitre 3 verset 17 dira « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus est la parole, et la parole est la vérité, d'où l'importance de recevoir correctement la semence qui donne la vie, afin que, comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 24, par cette semence que nous recevons, nous soyons complètement renouvelés dans notre cœur et notre esprit pour pouvoir revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Voilà ce qu'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance vient de la semence, de la parole de Dieu. Naître de nouveau ne se résume pas simplement à venir à l'église le dimanche en ressortant de la même manière que nous sommes rentrés. Ou en alliant nos pensées, ou en ayant pardon, nos pensées ailleurs lorsque les réunions sont en cours. Au lieu de prier, nous pensons peut-être à ce que nous allons faire après ou ce qui s'est passé dans notre journée la veille. Hier, aujourd'hui, je ne sais pas. Naître de nouveau ne se résume pas non plus à honorer Dieu uniquement avec nos lèvres, comme beaucoup l'ont fait, comme les pharisiens l'ont si bien fait. Le Seigneur dira à Isaïe, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Naître de nouveau ne veut pas dire non plus devenir religieux ou faire les choses par habitude. Naître de nouveau, c'est recevoir la semence dans notre cœur tout en laissant la parole de Dieu retourner la terre à sécher et y enlever toutes les mauvaises racines qui s'y trouvent, afin qu'à la place, il puisse venir y planter, y mettre, y faire grandir, y faire pousser des racines divines de la parole. Des racines qui vont grandir et faire de nous un véritable disciple de Christ, un adorateur en esprit et en vérité, qui va adorer Dieu de tout son cœur, mais aussi de toute son âme, de toute sa pensée, en lui attribuant le temps et la dépendance que Dieu mérite dans nos vies. Cela fera de nous un disciple qui aura l'amour de sa parole, l'humilité et l'obéissance qui l'accompagnent. Dieu n'a pas besoin de notre présence physique dans les réunions. Il n'a pas non plus besoin de notre argent, de nos paroles et de tout ce que nous pourrions lui offrir si cela ne vient pas de notre cœur. Dieu n'aime pas les paroles qui sortent de la bouche, mais il aime les paroles qui sortent de notre cœur. D'où l'importance d'avoir un cœur renouvelé, un cœur régénéré véritablement et dépendant de Christ, afin que par nos paroles, nos actes reflètent notre foi en Dieu et son amour en nous. Cette plante représente aussi l'humilité. Dans la culture hébraïque, l'hysope fait référence à l'humilité et à la dépendance, contrairement au cèdre, qui lui va représenter la puissance, la grandeur, la noblesse et la dignité. La Bible désigne le cèdre comme un arbre très élevé, un arbre imposant, au point qu'il sert à plusieurs reprises de comparaison avec les hommes orgueilleux. On prend un exemple, Amos chapitre 2, verset 9. « J'ai détruit les Amoréens dans la hauteur égalée celle des cèdres. » Dans l'Ancien Testament, il y a aussi la lèpre qui est souvent associée à l'orgueil. Nous avons comme exemple le roi Ozias. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un roi qui faisait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Il prenait appui, non pas sur son intelligence, mais sur les visions que Dieu donnait à son prophète, Zacharie. Dieu le fit prospérer au point que sa renommée, la Bible nous dit, s'étendait jusqu'aux frontières de l'Égypte. Mais un jour, l'orgueil enfla son cœur. Et à cause de la puissance qu'il avait, il a voulu s'occuper dans le temple d'une fonction que Dieu ne lui réservait pas. Il a voulu prendre la fonction du grand prêtre, du sacrificateur. Et à cause de cela, et devant tous, la lèpre éclata sur son front en punition de son orgueil. Il y a le même exemple avec Naaman, le lépreux, cet homme suffisant de lui-même par ses victoires. Il se croyait si grand et si fort à l'image du cèdre, mais il a dû comprendre que sans l'humilité, il ne pourrait jamais être guéri de la lèpre. Et assez curieusement, dans la parole de Dieu, lorsqu'il est parlé de purification de lépreux, nous voyons que l'hysope et le cèdre vont ensemble. Nous avons lu tout à l'heure dans les Lévitiques, au chapitre 14 et au verset 6, il est dit « Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre et l'hysope. » Alors pourquoi le lépreux, qui était guéri, devait-il offrir un sacrifice à s'accompagner d'une branche de cèdre et d'une branche d'hysope? En apportant le bois de cèdre, le lépreux déclarait d'une manière symbolique l'état de son cœur avant que la lèpre ne le touche. Ce temps où il se croyait, à l'image du cèdre, grand, fort, puissant. Ce temps où il croyait que par lui-même tout pouvait être fait et qu'il devait tout faire par lui-même. Ce temps où il avait oublié que Dieu seul était celui qui était tout puissant, celui qui était véritablement grand. Mais l'hysope trempé dans le sang du sacrifice témoigne que Dieu lui a fait grâce et qu'il reconnaît humblement que cette purification est un don de Dieu et uniquement un don de Dieu. La Bible dira « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » 1 Pierre chapitre 5 verset 6 dira « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Dieu veut que nous soyons et que nous restions humbles. Car même si Dieu est le seul qui soit à l'image du cèdre, il n'en est pas moins le plus humble d'entre nous. Et nous savons que nous devons être à son image, mais nous oublions trop souvent de chasser cet orgueil qui se trouve en nous. Et ça, mes frères et sœurs, c'est un combat de tous les jours. Chaque jour, nous devons veiller sur notre cœur. L'orgueil est le péché originel, c'est vrai, mais de nos jours, il continue encore à faire énormément de dégâts dans le cœur des hommes. Nous banalisons trop souvent sa présence dans nos vies. Mais n'oublions jamais que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Nous vivons dans une époque orgueilleuse où nous faisons correspondre la bonté de Dieu avec les biens, le travail et la belle voiture que nous allons posséder. Par orgueil, beaucoup veulent posséder toujours plus, mais ils oublient que cela va les éloigner de Dieu petit à petit. À trop vouloir posséder sur cette terre, nous risquons une chose importante, c'est de perdre ce qui a le plus de valeur, notre salut. À cause de nos préoccupations dans ce monde, nous passons de moins en moins de temps avec Dieu ou dans la communion fraternelle, cette communion fraternelle que Jésus nous exhorte à avoir. N'oublions pas une chose, c'est que Jésus a dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Et c'est une manière de nous dire « Redéfinissez vos priorités aujourd'hui. » J'ai pour habitude de dire que le temps de la grâce, le temps de notre vie, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des moments de clé en or, mais des moments en or qui nous permettent de préparer notre avenir éternel et non de préparer des biens sur la terre. Dieu demande d'être humble comme lui l'a été bien avant nous tous. Et je citerai ce verset que tout le monde connaît, Philippiens chapitre 2, du verset 6 à 8, « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, nous dit la parole de Dieu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus n'a pas cherché à venir sur terre dans une belle maison avec des richesses qui lui auraient permis de parcourir le pays sur de beaux et grands chevaux, avec de beaux habits qui auraient eu le mérite de montrer qu'il était le roi des rois, puisque c'est ce qu'il était, le Dieu Tout-Puissant, celui à qui la terre entière appartient, les richesses. Mais il a préféré venir au monde dans une étable, grandir dans l'humilité, parcourir le pays, enseigner le peuple dans l'humilité et mourir sur une croix pour notre salut à tous dans l'humilité. Ce que Jésus nous a démontré par des actes et non pas seulement par des paroles, c'est que le plus important n'est pas de posséder quelque chose dans ce monde, aussi grand que cela puisse être, mais c'est de l'accepter dans sa vie, de suivre son exemple durant le temps que nous allons passer sur cette terre pour hériter nous aussi, de ce trésor incorruptible dans le ciel, nous dit la parole de Dieu. Tout ce qu'il y a ici, tout va rouiller, va s'abîmer, va se casser. Il nous attend un trésor particulier, différent dans le ciel. Et nous devons vraiment prendre conscience de cela. L'hysope puise de sa force dans le rocher. J'ai dit tout à l'heure que l'hysope était une plante modeste, mais elle n'en est pas moins suffisamment forte pour résister aux tempêtes et pour résister à la sécheresse. Cette plante pousse dans des endroits rocailleux. Elle plonge ses racines dans les fentes des rochers. Et c'est là, sous les rochers, qu'elle va puiser sa force et sa nourriture. L'hysope représente l'humilité. Et à la différence de l'homme, cette plante sait que sa force n'est pas en elle. Et ça aussi, trop souvent, nous l'oublions. Elle sait que sa force ne se trouve que dans les rochers auxquels elle va s'accrocher puissamment. Pour elle, pour cette plante, c'est une question de vie ou de mort. Cette plante est là comme pour nous dire « Jésus est ton rocher et c'est seulement en lui, enraciné dans ses meurtrissures, que tu trouveras le salut. » Mais également de quoi alimenter ton âme, de quoi être fort et de quoi pouvoir résister aux tentations qu'offre ce monde. Jésus-Christ est notre rocher. Amen. Le psaume 18, verset 3 dira « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, encore une fois, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » Il est la pierre angulaire sur laquelle nous devons construire notre vie spirituelle. Et c'est en ces meurtrissures que nous devons nous enraciner. C'est là la seule façon de pouvoir alimenter notre âme et de prendre de véritables forces. Des forces qui vont nous permettre de tenir ferme lorsque nous allons traverser des épreuves difficiles. Et nous en avons tous. Chaque jour, il y a des épreuves dans notre vie. Et la force de pouvoir traverser cette épreuve, nous ne pourrons l'avoir que si nous puisons cette force-là en Jésus-Christ. Nous avons des épreuves chaque jour, des épreuves qui vont se manifester de façon différente pour chacun. Elles sont plus ou moins grandes, mais elles sont là. Elles sont là pour nous rendre la marche difficile dans ce monde. Tellement difficile que parfois, elles vont nous paraître insurmontables. Et c'est là qu'intervient Jésus-Christ. Si tu puises ta force en lui, s'il règne complètement sur ta vie, alors ce qui te paraît impossible va devenir possible. Jésus dira, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Quelle que soit la difficulté que nous traversons, quelle que soit l'épreuve par laquelle nous passons, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et par la foi que nous plaçons en lui, nous pourrons prendre cette montagne qui est devant nous et lui demander de partir. Non pas parce que nous sommes puissants. Notre rôle à nous, c'est de demander. Mais Dieu qui est tout puissant, lui va agir. Avec sa main puissante, il prendra l'épreuve ou la montagne et il la fera partir, sortir de votre vie. Soyez-en certains. Ce que vous demanderez par la foi, nous dit la parole de Dieu, vous sera donné. En Jésus, nous trouverons une nourriture spirituelle, une nourriture complète, suffisante pour notre âme. Car ce n'est pas une nourriture que nous trouverons sur terre, mais une nourriture qui vient du ciel. Et un enfant de Dieu a besoin de cette nourriture spirituelle, une nourriture qui lui soit adaptée. Il faut que ce soit une nourriture céleste. Nous pouvons rassasier notre corps, nous pouvons manger de bonnes choses dans de bons restaurants, mais cela ne suffira jamais à alimenter notre âme. Nous devons tous faire, et tout faire, pour avoir chaque jour de cette nourriture. Regardez un enfant. Lorsqu'il a faim, il se met à pleurer jusqu'à ce qu'on lui donne à manger. Et il doit être la même chose pour nous autres chrétiens. Nous devons tout faire, chaque jour, constamment, plusieurs fois par jour, pour demander de la nourriture à Dieu, pour nous rapprocher de lui, pour venir puiser notre force dans ce rocher qui est Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à regarder, prendre exemple sur les enfants. Nous devrions être pareils. Il y a des gens, des fois, qui passent par des épreuves. Ce sont des personnes qui, parfois, limitent la prière ou délaissent un peu la prière et la relation qu'ils ont avec Dieu. Et ils viennent, ils disent, je ne comprends pas, je passe par une épreuve. C'est difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, on commence par leur demander quel est son temps de communion. Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu as délaissé cela? La plupart du temps, les gens oublient de prier. Vous savez quoi? Lorsque tout va bien dans notre vie, il y a des moments où on délaisse la prière. Et il y a une chose qui fait tout le temps sourire, mais je leur dis, vous savez, lorsque vous êtes malade, vous prenez des antibiotiques. Il vous dit quoi? Matin, midi et soir. Et je lui dis, mais la prière, c'est pareil. Tu en as besoin, matin, midi et soir. C'est pas une fois le matin, quand tu te lèves, tu présentes vite fait, Seigneur, bénis cette journée, amen, et je vais travailler. Et puis on n'y revient plus. La prière, les moments de communion avec Dieu, sont des moments en or, des moments magnifiques, où la présence de Dieu vient envahir notre vie. Où il vient non seulement nourrir notre âme, mais il vient restaurer notre cœur. Il vient nous donner la paix, la joie, l'amour, ce que nous avons perdu à quelque part. Et c'est par ces moments-là que nous pouvons sortir heureux, bénis d'une prière. Alors il ne faut pas simplement prier le matin, ou simplement prier le soir, ou simplement présenter les aliments. Il faut passer du temps avec Dieu, afin que non seulement il puisse nous bénir, mais que son Saint-Esprit nous remplisse, il remplisse notre vie. Et que de là, nous puissions nous-mêmes être des exemples, être des lumières pour ceux qui nous entourent, que nous puissions avoir les paroles de la vie aussi, que lorsque nous parlions à quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille ou notre travail, il puisse se passer quelque chose, non pas parce que vous aurez parlé, mais parce que Dieu aura agi à travers vous, parce que Dieu aura agi à travers vos paroles. Nous devons puiser nos forces, notre énergie dans le rocher qui est Jésus-Christ. En Jésus, nous allons pouvoir grandir, nous allons pouvoir nous fortifier, mais nous allons pouvoir aussi nous reposer, nous désaltérer, car une plante a besoin d'eau pour grandir. Elle a besoin d'eau pour développer ses racines. Et en tant que semence de la parole de Dieu, nous avons aussi besoin de cette eau. Et nous savons très bien que l'eau de vie n'est autre que Jésus-Christ. Nous avons tout devant nous, tout pour y arriver. Il suffit simplement, par une foi ferme et puissante, de se dire, je garde cette communion avec toi, Seigneur. Je veux continuer à avancer avec toi, Seigneur. Je ne veux pas me détourner de toi, Seigneur. Je veux faire comme cette plante. Je veux puiser. Je veux que mes racines viennent puiser leur force dans ta parole, dans ta présence, Seigneur. Et je vais finir. L'hysope symbolise l'humilité et la purification qui découle du sang du sacrifice. C'est pour cette raison que le sacrificateur devait prendre un bouquet d'hysope et le tremper dans le sang de l'agneau, sans tache et sans défaut. Cela revient à dire que nous devons commencer par nous humilier à Christ, qui est l'agneau immolé, que nous devons être reconnaissants, être dépendants de lui, de sa personne, afin qu'il puisse venir purifier et agir dans notre vie. Voilà pourquoi le roi David fait allusion à la prière de repentance. Dans cette prière de repentance, il fait allusion à l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Après s'être humilié de tout son cœur, il demande le pardon et la purification de ses péchés. Quant à la croix, avant de mourir, Jésus a dit « J'ai soif ». On lui apporte alors une éponge imbibée de vinaigre fixée sur un roseau, entourée d'une branche d'hysope, nous l'avons vu. L'hysope est le symbole de l'humilité trempée dans le sang. Le sang qui recouvrait le visage de Jésus. Et c'est alors que tout va prendre son sens. Jésus s'étant humilié jusqu'à la mort de la croix, il purifie par son sang tous nos péchés. Et ce matin, je voudrais vous encourager à posséder dans vos vies, je m'encourage aussi à posséder dans ma vie, les caractéristiques de l'hysope. Car sa force n'est autre que l'humilité et la dépendance au rocher dans lequel elle vient puiser sa force, sa nourriture, tout en y protégeant ses racines. Nous devons simplement garder à l'esprit que Jésus-Christ est le seul qui puisse nous faire avancer dans ce monde. Il est le seul qui puisse nous faire avoir et vivre des moments particuliers. Nous voulons voir des miracles, nous voulons voir tellement de choses autour de nous, mais pour cela, il va falloir que nous soyons acteurs de cela. Le Seigneur pourra agir à travers chacun d'entre nous, à une seule condition, que nous continuions à être dépendants de lui, que nous continuions à puiser nos forces dans la parole de Dieu. Soyez bénis. Seigneur mon roi, mon Dieu, je veux te louer.